Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure. C'est l'invité du 12-13, votre moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Alors aujourd'hui, nous accueillons l'Association départementale d'aide aux victimes et de médiation des Landes, justice de proximité, la DAVEMJP. Je vais pouvoir mettre au point un dictionnaire des acronymes, parce qu'il y en a beaucoup, mais ça nous permet de survivre aussi. Alors, nous avons dans notre studio Anne Dequin, directrice, et Maïlys Darouze, coordinatrice et intervenante sociale en gendarmerie. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Très bien, bonjour à tous.
Et on vous souhaite une bonne année, évidemment, parce que c'est... On commence, on a encore un petit peu le temps pour le dire. On va passer une heure ensemble pour découvrir votre structure et ses actions. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti pour cette émission. Alors, la tradition ici, mesdames, en général, on aime bien s'intéresser aux gens, savoir qui ils sont, et on aime bien connaître un petit peu la trajectoire qui fait que, voilà, à ce jour, ils sont arrivés à ce micro. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et de comment vous êtes arrivé à ce que vous faites maintenant ?
Oui, très bien. Donc, je suis donc Anne, la directrice de la DAVEM aujourd'hui, mais avant ça, j'ai eu une autre vie. Je suis à la base paloise. J'ai fait mes études à Pau, mes études de droit jusqu'à valider mon DESS à l'époque, maintenant Master 2, mais de mon temps, c'était le DSS droit des victimes, victimologie et criminologie, plus un diplôme universitaire de criminologie aussi, qui fait que j'avais déjà une appétence pour la procédure pénale et la prise en charge des victimes, mais aussi des auteurs dans le cadre de la protection des victimes. Et donc, en 2005, je suis partie avec mon baluchon et je suis montée à Paris pour exercer en tant que juriste, puis coordinatrice des juristes au sein de l'association Paris Aide aux Victimes jusqu'en 2017. Voilà, et puis ensuite, projet familial, on a tous voulu redescendre dans les Landes pour se rapprocher du
sud. Ce sont des choses qui arrivent.
Et voilà.
Très souvent d'ailleurs.
Donc voilà, nous voilà arrivant à la DAVEM, et puis de chef de service, je suis devenue la directrice de l'association ADAVEM JP40 et ravie d'être là.
Très bien, merci beaucoup pour ça. C'est au tour de Maïlys.
Alors donc Maïlys, moi je suis née dans les Landes, ma famille est dans les Landes. Je suis partie faire des études sociales à Bordeaux puis à Poitiers et dans le cadre de mon stage de fin d'année à Poitiers, j'ai eu la chance d'être prise en stage pour 2 mois à l'ADAVEM JP40 et force est de constater que du fait de mon excellent travail, la directrice de l'ADAVEM a décidé de me garder. Ouais. Donc je suis dans l'association depuis 6 ans maintenant, donc d'abord en qualité d'intervenante sociale en gendarmerie et puis maintenant coordinatrice du service social donc à la DAVEM.
D'accord, très bien, merci beaucoup, comme ça on a une petite idée de votre trajectoire. Alors on va parler de cette fameuse DAVEM maintenant. Alors qu'est-ce donc on va faire une petite présentation générale et après on rentrera dans les détails.
Oui, de façon synthétique, parce qu'on pourra en parler des heures. Oui. La DAVEM JP40 est composée, on va dire, de 2 services. Un service d'aide aux victimes, un service socio-judiciaire. Dans le service socio-judiciaire, puisque le service d'aide aux victimes, on le développera un peu plus, mais c'est important de parler du service socio-judiciaire aussi, puisque c'est une activité quand même conséquente et en lien avec les victimes, puisque pour protéger les victimes, il faut bien prendre en charge des auteurs et s'assurer du respect des règles de la loi avant un jugement. Donc on est sur le présententiel, donc on va accompagner les auteurs dans le cas de contrôle judiciaire ou de mesures alternatives, puisque le procureur de la République a décidé de ne pas poursuivre mais de proposer des mesures avec des conditions à respecter et des obligations. Donc on aura des délégués du procureur, et pour évaluer les situations des personnes, pour éclairer le magistrat sur une décision, on a des enquêteurs de personnalité. Donc ça, c'est sur le volet socio-judiciaire. Et sur le volet aide aux victimes, donc on a un service d'aide aux victimes composé de juristes, psychologues et travailleurs sociaux, et on doit pouvoir prendre en charge toute victime, on développera après, et l'idée étant de pouvoir être au plus près des besoins des personnes et de les accompagner jusqu'au bout d'une procédure judiciaire.
D'accord, alors en vous écoutant, si je me fais la réflexion que je me fais des fois pour certaines associations, on est des fois étonné que ce soit une association qui prenne en charge tous les items que vous avez listés, que ce soit pas une émanation directe de l'État en fait, parce que ça semble évident qu'on a besoin d'un organisme qui fait un peu ce que vous faites.
Vous avez raison, le pendant existe au niveau étatique pour les auteurs après jugement. Donc on appelle ça le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, qui est rattaché à l'administration pénitentiaire et donc du ministère de la Justice, avec qui on travaille étroitement, puisque ben, on a des publics qui se croisent, et c'est très important sur le terrain d'être en cohérence au niveau de cette prise en charge à des auteurs. Mais sur le volet ou présententiel, à l'heure actuelle, c'est délégué à l'associatif, et surtout le volet aide aux victimes, qui là n'a pas de pendant au niveau autorité étatique. Oui. Et donc on est une délégation, donc on est agréé du ministère de la Justice, donc il y a un agrément. Mais effectivement, c'est assez ambivalent. Aujourd'hui, en plus, les demandes sont de plus en plus conséquentes et des situations de plus en plus complexes liées à l'évolution du droit, à l'évolution de la société, etc. Et avec des contraintes aujourd'hui d'un fonctionnement associatif, je vais parler budgétairement en tant que directrice, etc., qui fait qu'effectivement, on arrive peut-être à un moment donné là à un choc des, des dispositifs. Mais la valeur ajoutée, que ce soit portée par le secteur associatif, fait qu'on peut, pallier à ce qui manque aujourd'hui. Et demain, ça sera peut-être récupéré par le service public, parce qu'on aura fait détecter, remonter des évolutions de prise en charge.
Ce qui est arrivé, certaines associations que j'ai reçues ici se retrouvent un petit peu, comment dire, reprises, leur activité reprise par, par l'État. Mais bon, en même temps, c'est son travail aussi à l'État. De faire les choses, voilà, c'est normal.
Exactement.
Alors, vous faites partie aussi, alors il y a une affiliation avec France Victime. Alors, qu'est-ce que c'est France Victime? C'est une chaîne, une fédération? Qu'est-ce donc?
Alors, France Victime est la fédération nationale des associations d'aide aux victimes agréées du ministère de la Justice. Donc, il y en a à peu près 130, à peu près. Certaines sont en train d'associations du réseau France Victime qui fondent un peu les plombs parce que problème budgétaire. Soi, la fédération est là. Donc nous, en tant qu'ADAVEM et en mon nom personnel, on est membre du conseil d'administration de la Fédération nationale. Donc c'est important aussi pour les départements ruraux comme nous, avec une étendue particulière aussi de territoire, d'être représentés au niveau national, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques et les mêmes besoins.
Oui, que la région parisienne,
exactement,
par exemple, au hasard.
Exactement. Donc en plus, je peux copier-coller, puisque j'ai travaillé là-bas, donc ce n'est pas du tout même les mêmes problématiques en charge. Et donc c'est important de pouvoir porter la voix de, donc ça va faire 5 ans qu'on nous y sommes, et donc Fédération France Victime est importante puisque elle permet d'être l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics au niveau national avec le ministère de la Justice, et pas que, puisqu'il y a aussi une délégation interministérielle de l'aide aux victimes qui devrait basculer au ministère de la Justice, enfin bref, mais en soi c'est l'interlocuteur pour essayer de homogénéiser les prises en charge, être le porte-parole des associations, toujours pareil, dans le but qu'aucune victime ne soit laissée de côté.
Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est parce que vous avez expérimenté ailleurs, on dit par la région parisienne, qu'est-ce que vous pouvez dire de la spécificité en termes de traitement et puis en termes de cas? C'est peut-être pas tout à fait les mêmes choses qui se passent, les mêmes problèmes à gérer?
Oui, alors effectivement, j'étais... alors en plus, moi je suis arrivée en 2017 et la loi a évolué au fur et à mesure sur les violences intrafamiliales, mais la comparaison est un peu plus difficile puisqu'on ne traitait pas forcément de toutes les victimes que l'on a aujourd'hui, nous, à la DAVEM, puisqu'on avait une spécificité. Ensuite, on a eu les attentats en 2015, donc on avait à gérer les victimes d'attentats. Donc sur les infractions, si vous voulez, intrafamiliales et violences sexuelles intrafamiliales, c'était les mêmes proportions malheureusement qu'ici dans les Landes, et c'était assez assez percutant pour moi puisque il y avait quand même beaucoup plus de personnes certes, mais les ratios sont les mêmes.
Oui, ça, les ratios sont les mêmes. C'est bon à savoir, c'est intéressant, c'est une donnée intéressante à connaître ça quand même. Parce que
voilà, après la difficulté pour ici, je trouve, pour les Landais en tout cas, c'est les difficultés de déplacement et de pouvoir aller sur des lieux de ressources où on sait trouver une écoute professionnelle avec des salariés professionnels de l'aide aux victimes, qu'en Ile-de-France, vous pouvez plus facilement vous déplacer en transport en commun, métro, etc., etc. Donc cet accès-là, ici, il faut qu'il soit beaucoup plus porté par les structures pour aller vers les personnes, parce que si on attend que le téléphone sonne, c'est sûr que on serait assez ça serait beaucoup, beaucoup moindre au niveau du nombre de victimes aidées par la DAVEM, parce que justement, c'est nous qui avons déclenché des démarches proactives et on le développera après. Là, pour le coup, je pense que sur Paris, région parisienne, il y a des structures identifiées, des transports qui permettent, si on n'a pas le permis, de pouvoir aller trouver de l'aide.
Oui, oui.
Ici, c'est plus compliqué.
Ah oui, ça c'est.
Du coup, c'est un double frein.
Oui, c'est vrai. Et vous avez donc des permanences. Où est-ce qu'on peut vous trouver déjà? On, bien sûr, on donnera dans l'émission, puis aussi avec le podcast, on donnera des coordonnées pour vous joindre, le site web, etc. Mais vous avez des permanences où on peut vous contacter, vous toucher?
Tout à fait, on a des permanences du coup dans tout le département, donc on a deux antennes principales à Dax et à Mont-de-Marsan. Les jurys sont également présentes au sein des deux tribunaux, donc de Dax et de Mont-de-Marsan. Elles font également des permanences délocalisées, donc notamment sur la côte, mais aussi au niveau rural, par exemple sur Sabre et R sur l'Adour. Et au niveau des assistantes sociales, donc elles sont présentes dans toutes les gendarmeries du département toute la semaine dans le cadre de permanences délocalisées.
Très bien. Eh ben, c'est déjà le moment de faire notre première pause. Je vous avais dit que ça allait très vite, mesdames. Ça va très très vite. Souvenir FM, ça booste. On fait une petite pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Alors, on parlait d'aide aux victimes, etc. Ben, on va commencer par un fondamental. Mais qu'est-ce qu'une victime et qui est concerné par vos actions?
Alors, très bonne question, puisque la DAVEM est compétente pour accompagner les victimes d'infractions pénales. Donc, une infraction pénale, c'est un acte qui est puni par la loi et qui a des conséquences sur les personnes, sur à la fois physique, psychologique ou financier. Il y a deux grandes catégories, des victimes d'atteinte aux biens, vol, escroquerie, abus de confiance, et les victimes d'atteinte aux personnes. Ça va être des victimes de violence physique, psychologique, sexuelle, tentative d'assassinat, violence physique, dans la rue, à l'école, au travail, en hébergement. Voilà, c'est assez vaste, mais c'est important que les victimes puissent, quand elles déposent plainte, elles ont nos coordonnées dans le dépôt de plainte. En revanche, toutes les personnes ne vont pas relire le dépôt de plainte tous les soirs en rentrant pour se demander toutes les notices qu'il y a. Donc, le travail de la DAVEM, c'est de pouvoir essayer d'être visible et d'aller vers les personnes si les personnes ne viennent pas à nous. Après, aux personnes de prendre la main en gros tendue ou de différer, parce que c'est pas le moment non plus à nous de nous adapter au moment des personnes.
Oui, alors parce que des fois, quand il nous arrive quelque chose, on se dit, ben voilà, mince, il m'est arrivé quelque chose, quoi que ce soit, et j'ai besoin peut-être de faire quelque chose par rapport à ça, de défendre mes droits, mais comment faire? Il y a des gens qui invoquent la peur de tout ce qui est administratif, etc. Voilà, donc des fois c'est compliqué, et vous êtes donc un interlocuteur. Par exemple, voilà, j'étais victime de quoi que ce soit, je sais pas, parce que dans les victimes, il y a aussi, ça peut être les victimes de terrorisme, de catastrophes naturelles, d'escroqueries, c'est très large. C'est quoi le parcours de la victime à la DAVEM?
Alors, le parcours d'une victime à la DAVEM, déjà deux possibilités d'entrée, comme vous disiez Anne. Soit la victime, effectivement, connaît déjà la structure et a pu contacter donc le secrétariat dans un premier temps, avec qui elle va pouvoir échanger rapidement sur sa situation, et l'agent administratif va pouvoir faire le relais vers l'interlocuteur privilégié. Ça peut être donc avec la juriste de nos services pour faire un premier point sur les démarches au niveau du droit à faire, quelles sont mes droits par rapport à une audience à venir, etc. Aider à mettre en lien avec l'assurance. Puis à la suite de ça, si on sent en tout cas que cette situation a pu aussi fragiliser la victime au niveau social, parce que ça engendre par exemple un problème par rapport au logement ou alors une perte de salaire, elle peut être mise en lien directement avec l'assistante sociale de nos services pour pouvoir débloquer un petit peu la situation et faire le relais vers les bons partenaires. Et enfin, elle peut aussi voir la psychologue de nos services pour pouvoir traiter un petit peu les violences qu'elle aurait pu subir et aider à aller de l'avant, en tout cas dans cette procédure judiciaire.
Du coup, on entend là qu'il y a un triptyque, un accompagnement pluridisciplinaire qui doit être adapté à la personne. Donc une personne pourra ouvrir une porte, une autre, mais il n'y a pas un parcours type, et ça c'est important.
Ouais.
D'autres associations du réseau France Victimes peuvent fonctionner différemment. Il faut que chacun puisse trouver ce qu'ils ont besoin pour initier les choses.
Mmh.
Et dans toujours nos accompagnements, c'est l'écoute qui est fondamentale et un accueil bienveillant et non jugeant.
Mmh.
À partir de là, toutes les choses vont pouvoir se mettre en place pour aider au parcours de reconstruction d'une victime.
Mmh.
C'est le maître mot, de façon confidentielle et gratuite.
Oui. Voilà, c'était à dire, confidentiel et gratuit,
oui.
Voilà, donc c'est ça qui est, c'est intéressant de savoir aussi. Oui, c'est vrai, parce que alors tout ce qui est, touche un peu à la justice, au droit, voilà, quand on n'est pas dans de la partie, ça peut faire un peu peur, dans le sens où ça fait penser un petit peu à une usine à gaz, hein. Enfin bon, tous les textes, toutes les choses qu'on ne connaît pas, on sait qu'en plus il y a des lois qu'on ne connaît pas, et en plus on sait qu'il y a des exceptions aux lois qu'on ne connaît pas. Enfin bon, voilà, quand on n'est pas du tout du domaine, c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire, voilà, j'ai un problème, j'ai besoin d'une interface entre la justice et moi.
Oui.
Et votre interface, c'est vous, dans ce cas-là.
C'est ça, et on va être un relais avec les avocats et avec les tribunaux. On a travaillé avec les procureurs de Dax et de Mont-de-Marsan, justement, pour qu'on puisse avoir les coordonnées des personnes le plus en amont possible, pour, moi j'aime à dire qu'on est des aiguilleurs du droit.
Oui.
C'est-à-dire que, bah, en tant que juriste, on va essayer, comme dit Maïlys, de zoner et de sonder sur les problématiques des personnes, puisque chaque personne est individuelle et chaque situation est unique.
Oui.
Mais ensuite, de pouvoir effectivement relayer sur les avocats dans le cadre d'une demande des victimes pour faire exercer leurs droits au niveau judiciaire. Mais pour ça, quand on est sur des procédures rapides, il faut que les victimes puissent savoir où en est leur dossier, comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en temps réel, donc ça veut dire très vite.
Oui.
Donc le but, c'est de temporiser aussi et d'essayer d'éviter des survictimisations pour les victimes, et en les éclairant sur les prises en charge des frais d'avocat, les prises en charge des frais de santé, les prises en charge, etc. etc.
Oui, parce qu'en fait, il y a plein de gens, c'est un peu comme les aides sociales, il y a plein de gens qui passent à côté des choses auxquelles ils ont droit. Hein, voilà, c'est par exemple comme le RSA, plein de gens disent que ça coûte très cher à la société, sauf qu'il y a 1 million et quelques personnes qui n'en font pas usage. Donc on pourrait dire qu'en fait ça fait des économies hein, à l'heure actuelle, puisqu'on n'indemnise pas tous les gens qui ont un droit. Effectivement, c'est vrai que la survictimisation, ce serait effectivement de passer à côté d'aides, de remboursement de frais quand on a une assistance juridique ou pas, l'indemnisation, si on peut avoir droit à une indemnisation ou pas, ça c'est quand même sympa à savoir.
Très très important, et c'est justement pour aussi que la reconnaissance par la justice englobe toute cette réparation-là, à la fois psychologique, juridique et morale, et pécuniaire aussi, quand il y a des dommages et intérêts. Il existe des dispositifs que les usagers doivent connaître pour justement aller au bout des choses, pour qu'il n'y ait pas ce sentiment qui peut des fois parfois perdurer avec une justice qui ne va pas jusqu'au bout des choses, parce qu'il y a des arcanes qu'on ne connaît pas.
Oui, c'est ça,
et
c'est ce qui fait peur.
C'est ça qui est problématique, et que nous, on aspirerait à ce que chaque Landais ait connaissance. Après, ils vont jusqu'au bout des choses ou pas, parce qu'il y a le temps. Mais il faut pouvoir prendre des décisions éclairées. Mmh. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est une double accident, c'est d'être victime et en plus de passer à côté de ce qu'on pourrait avoir comme réparation. C'est la double peine, ce serait dommage. Alors on va parler un petit peu des gens avec qui vous travaillez, de vos partenaires, parce que bon, on a bien compris que tout ça peut fonctionner parce que les choses s'interpénètrent, hein, différents dispositifs sur le territoire. Avec qui travaillez-vous principalement?
Alors, effectivement, seul on n'est rien, et qu'il faut absolument une coordination des partenaires pour être au plus proche des besoins des victimes. Alors, le partenaire privilégié, bon, il y en a plusieurs, mais étant agréé du ministère de la Justice, effectivement, on a mis en place différentes conventions avec les tribunaux de Dax et de Mont-de-Marsan, justement pour faciliter la connaissance de la DAVEM, faciliter les informations et nous, les démarches proactives et les coordonnées des victimes pour être au plus près des besoins des personnes, faciliter l'accompagnement des victimes par exemple aux assises avec des mises à disposition par le tribunal, faciliter l'accompagnement des victimes dans le cadre de mesures rapides, comparution immédiate, on en a parlé tout à l'heure, CRPC déferment, etc. etc. On en parlera après, puisqu'on a aussi un autre dispositif mis récemment en place, donc ça je laisserai Maïlys en parler. Mais sur l'autre volet, partenaire très très identifié, c'est les hôpitaux. Mmh. L'hôpital de Dax, l'hôpital de Mont-de-Marsan, avec qui il y a une évolution sur les différents services mis en place, des unités d'accueil des victimes, les unités médico-judiciaires.
La médecine légale.
Voilà. Mmh. Et l'UAPED, l'unité d'accueil d'enfants en danger, qui permet justement de structurer l'accompagnement des victimes dès l'audition, avec pour les mineurs, notamment le déplacement des forces de l'ordre au sein des UAPED, la prise en charge médicale et derrière juridique et psychologique et sociale aussi des enfants et des parents. Si les parents ne sont pas mis en cause, les parents doivent être étayés et outillés pour mieux aider leurs enfants victimes aussi. C'est vraiment un accompagnement nécessaire et ce travail-là était fondamental et en puissance sur la dernière année. Et ensuite, les forces de l'ordre qui sont aussi fortement mobilisées autour de l'orientation des victimes qui peuvent avoir déposé plainte en lien avec les intervenantes sociales. Je laisserai Maëlys développer ça sur l'aspect accompagnement et associatif avec les différentes associations qui peuvent intervenir dans certaines spécificités. Le CDF aussi, avec qui on est en lien étroit quotidiennement. Mais je laisse Maëlys compléter.
Oui,
pour revenir donc aux forces de l'ordre, les intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie, elles ont donc intégré les unités en 2020. L'idée, c'est de pouvoir en tout cas faire un pont entre les services des forces de l'ordre et le maillage associatif. Et donc, ça nous permet, nous, en qualité d'intervenantes sociales, de récupérer directement en tout cas les coordonnées des victimes quand elles se présentent à la gendarmerie ou au commissariat, de pouvoir les accueillir dès le dépôt de plainte pour pouvoir les orienter au mieux, essayer de désacraliser un petit peu cette procédure judiciaire qui va être assez compliquée par la suite. Et la force aussi, c'est de pouvoir faire un relais directement avec le secteur, donc le conseil départemental, avec les assistantes sociales, ou les CCAS et CIAS. Et l'idée aussi, et la force de la DAVEM aujourd'hui, c'est que ce maillage de partenaires permet d'avoir vraiment un lien entre professionnels pour accompagner au mieux la personne victime. Comme vous disiez, Anne, dans son temps aussi, parce que des fois on peut proposer des démarches proactives, on peut se mettre à la disposition des gens, mais c'est pas le moment pour elles, pour diverses raisons, et c'est totalement entendable et c'est ok. Simplement, nous, on a planté une petite graine et après elles peuvent revenir vers nous à tout moment. Et ça, c'est hyper important, en tout cas pour les victimes, qu'elles sachent que leur temps, c'est leur temps à elles, et personne n'est là pour juger là-dessus. Nous, on est juste là pour les aider et faciliter en tout cas au mieux la procédure judiciaire.
D'accord. Oui, alors je vois, vous servez, c'est une expression un petit peu de lubrifiant dans toute la mécanique en fait, parce que vous permettez de rentabiliser les dispositifs qui existent déjà, mais qui ne sont pas forcément en coordination et connectés les uns aux autres.
C'est ça, et chaque situation étant unique, il faut qu'on puisse tirer une ficelle, une seconde. Moi, j'appelle ça aussi des aiguilleurs de réorienter. Si ça se passe très très bien, une fois que les personnes sont lancées dans une procédure, peut-être qu'on n'aura pas forcément de retour. Et s'il y a des quoi que dans le rouage, de toute façon, on sera à nouveau sollicité.
Voilà. Alors, on parlait aussi de la difficulté des dispositifs tels que les vôtres, qui ont le côté permanence. On ne peut pas rester passif et attendre que le téléphone sonne. C'est comme quand on cherche du travail. Si on attend que le téléphone sonne, on a beaucoup de moments de solitude. Donc, vous êtes un peu obligé d'être proactif dans l'action.
C'est ça. Et ça, c'est effectivement une évolution, même dans nos prises en charge et dans les consignes, on va dire, de nationales, ou en tout cas des réflexions qui avaient lieu à l'époque, vu que ça fait plus de 20 ans que moi, en tout cas, que j'ai exercé. Et au tout début, on nous disait qu'il fallait laisser la place aux personnes et surtout le droit à l'oubli, et que donc il fallait attendre que les personnes viennent vers nous pour pouvoir se mobiliser. Or, on s'est rendu compte que c'était une hérésie, que pouvoir demander de l'aide, c'était difficile. Pour demander de l'aide, pourquoi? On va pas faire revenir la situation avant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir comprendre? Ma situation est particulière. Qu'est-ce que ça va me renvoyer aussi? Qui je suis, est-ce que je suis légitime, etc. etc. Si on veut enlever tous ces freins-là, il faut pouvoir aller tendre la main de la personne et après à elle, en son moment en tout cas, de pouvoir répondre aux sollicitations ou pas. et comme me dit Maëlys, ça c'est ok, on sera toujours là. Et si on change d'avis, on sera toujours là. Et si on rechange d'avis, on sera toujours là.
Et oui, bah, c'est rassurant à entendre déjà. Oui, alors après c'est vrai qu'il y a cet esprit de victime. Des fois, quand on est victime, vous avez des psychologues qui doivent connaître cet aspect-là de la psychologie de la victime. C'est un petit peu comme les enfants aussi, ils pensent toujours être coupables. Hein, il y a toujours la peur de ne pas être légitime. On a aussi honte. C'est ça qui est terrible, en fait, parce que celui qui doit avoir honte, c'est l'auteur. Hein, on est d'accord.
Exactement.
Mais il y a quand même un biais voilà, psychologique qui fait que la victime elle a un sentiment de culpabilité, ce qui fait que ça va être un frein à faire des démarches, à honte de le dire. Quand nous arrive un malheur, c'est quand même pas notre faute, quoi.
C'est ça. Ouais. La honte, la peur de pas être entendu, la peur de pas être cru. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses et beaucoup trop de freins qui limitent la parole des victimes et qui devraient ne pas exister.
Oui,
mais comme c'est comme ça, on est là pour ça.
Oui, alors j'ai quelques chiffres qu'on m'avait donnés sous les yeux. Très grande surprise, on voit que voilà, les victimes sont majoritairement des femmes. Hein. Voilà.
Oui. Les femmes sont surreprésentées. Oui. Il y a des hommes victimes.
Oui, bien
ils
sûr.
Sont accompagnés par la DAVEM, il faut être. Les chiffres sont têtus. Les femmes sont largement surreprésentées au niveau de la victimologie.
Et oui, c'est ça. Alors, je vois le profil des victimes d'infractions pénales en 2025. Alors, sur un total de 5038 cas.
Ça y est.
Ce qui est quand même pas mal. Non, ça chôme pas.
Voilà, DAVEM quand même. Hein. Il n'y a pas d'emploi fictif.
Ah non, là, je crois que là, c'est pas possible. Voilà, je vois qu'il y a 3446 femmes et 1541 hommes. Alors, il y a aussi une tranche d'âge plus représentée, c'est la tranche de 18 à 65. Mm-hmm. Donc, les moins de 18, il y en a moins, et les plus de 65, il y en a moins aussi. J'imagine, puisque bon, ça fait un petit moment que vous êtes dans ça, voilà, il y a aussi le sujet du numérique. Je s'imagine que tous les problèmes, les arnaques, suite au numérique, ben, c'est quelque chose qui doit être vachement important, non ? Parce qu'on a parlé des fois des brouteurs avec certaines associations avec qui vous travaillez, des arnaques, des fameux SMS, des escroqueries qui sont favorisées par le numérique.
Alors oui, tout à fait, on a de plus en plus, hein, de toute façon, des infractions liées au numérique, comme on a pu le voir, des arnaques à l'amour. Alors ça existait déjà, on avait déjà des victimes, effectivement, mais là, de plus en plus, avec des mails qui sont super bien faits, avec des logos de l'État ou de la gendarmerie, et pour faire aussi un petit lien par rapport aux violences conjugales, on peut le voir aussi, cette surreprésentation numérique, avec un flicage, par exemple, directement sur le téléphone, ou alors des balises GPS qui peuvent être posées sur les voitures. Voilà, le numérique, ça a beaucoup de côtés positifs, mais aussi, effectivement, nous, on peut le voir aussi en négatif sur pas mal de victimes.
Oui, c'est vrai que alors, cette histoire, c'est vrai qu'on trouve maintenant facilement des traceurs GPS, hein, plus sur iPhone que sur Android, mais maintenant, on en trouve aussi, qui sont de moins en moins chers. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu sur Internet les infos, on voit que qui un patron qui flique son commercial, qui un mari qui espionne sa femme, etc. Ça fait partie, oui, des nouvelles pratiques qui sont très faciles à mettre en œuvre, en fait.
C'est ça, et c'est une grosse problématique. Mais on peut aller plus loin. Hein. Quand nous, on est parents et qu'on géolocalise nos enfants pour assurer leur sécurité, maintenant, on fait des sensibilisations et attention. Ça veut dire qu'on rentre sur... on légitime un contrôle, en fait. Donc, un enfant qui va évoluer jeune adulte, etc., le contrôle fait partie, et la géolocalisation fait partie de ses us et coutumes. Donc, je serai en droit de demander pareil à mon compagnon ou ma compagne. Et donc, je légitime ça. Donc, il faut faire attention parce que ce sont des enjeux aujourd'hui qui vont aller au-delà sur les relations de couple, ce besoin aujourd'hui de devoir à chaque fois justifier et qu'il faudra être source de conflit, très clairement, parce que on n'a pas les outils pour pouvoir gérer ces colères de ma copine ou mon copain qui m'a menti, etc. Et voilà, donc c'est vraiment un facteur. Il y a aussi le harcèlement. Hein,
le harcèlement, ça c'est un sujet qu'on aborde forcément ici très souvent, tout ce qui est scolaire, entre autres.
Donc ça, aussi un fléau, et ça touche effectivement les mineurs. Là, la problématique pour la DAVEM, c'est qu'on se rend compte quand même qu'on a de plus en plus de mineurs victimes. On atteint 1000 victimes quasiment sur l'année. Il y a 8 ans, on n'était qu'à 400.
Oui.
Donc, on est identifié. Donc, c'est une bonne chose.
Oui.
Mais les mineurs victimes, le chiffre ne baisse pas.
Et oui. Donc, c'est du moins coup, bon. D'avoir plus, encore plus de mineurs auteurs aussi.
Alors, il y a des mineurs auteurs, parce que, on n'a pas les chiffres.
Dans le harcèlement et dans le traçage.
Oui, voilà. Il y a des difficultés supplémentaires de conflits entre mineurs aussi, et qu'il faut pouvoir étayer et accompagner un mineur auteur. Et là, le temps d'entendre et de comprendre aussi, il faut pouvoir travailler. Et donc, du coup, la prévention, elle est essentielle. Et c'est là où on revient sur des actions de sensibilisation qu'on a pu mettre en place ou que d'autres partenaires mettent développent, notamment avec la MPF, le CIDF. Et ça, c'est fondamental de poursuivre.
Oui, alors vous avez aussi des stages, hein, des stages de citoyenneté ou stupéfiants. Donc là, ce sont des gens qui sont contraints par une décision de justice à dire, attention, monsieur, vous allez vous sur un petit stage, comme des fois on est obligé de faire pour récupérer ses points. Hein, c'est-à-dire, on considère qu'avant de lâcher la personne dans la nature, il faut lui faire un petit peu, entre guillemets, la morale. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon. Donc vous organisez aussi ce genre de choses.
Oui, c'est ça. Sur mandat du tribunal, des personnes qui ont commis une infraction peuvent, soit dans le cadre d'une mesure alternative, le procureur a décidé de proposer un classement sous condition de réaliser un stage, donc un stage citoyenneté ou un stage sur les dangers de l'usage des stupéfiants, ou en peine complémentaire, le président du tribunal a statué et a condamné à une peine de sursis, par exemple, plus un stage. Et donc c'était important pour nous d'être dans ce dispositif-là, puisque quand même l'émission, le cœur de la mission de la DAVM portée par l'équipe, le président, M. José Pérez, et le bureau, c'est quand même de pouvoir arriver à faire vivre ensemble les personnes et être au clair sur les valeurs de la République, mais également les valeurs liées aux structures, au civisme, etc. Et on a même fait une convention avec les pompiers, et les pompiers interviennent dans des stages citoyenneté, parce que c'était important que puissent les pompiers donner un message clair aussi sur le danger qu'ils prennent, par rapport des fois des conduites à risque de certains usagers, et l'impact que ça peut avoir en termes de victimologie. Et donc des usagers peuvent être condamnés à faire ce stage et avoir le PSC1, c'est-à-dire le
diplôme de premier secours.
Merci.
D'accord. Voilà. Très bien.
Et c'était important pour nous de pouvoir aussi sensibiliser et former des usagers aussi aux gestes de premier secours, parce que c'est aussi la responsabilité de nous tous pour aider les autres.
C'est vrai. J'ai découvert une chose. Il y a un chien dans l'histoire. Et ça, j'étais assez surpris.
Alors oui, depuis mai, on a un nouveau collègue donc à quatre pattes qui s'appelle Uxy, qui est un labrador noir qui nous a été confié donc par l'association Andy Chien, qui a été formé expressément pour pouvoir soutenir et accompagner les victimes, les victimes les plus fragilisées. C'est donc un chien qui permet de libérer la parole un petit peu, de désacraliser le moment, par exemple pour des enfants qui n'arrivent pas à parler des faits dont ils ont été victimes. C'est une sorte de médiation animale qui permet donc à l'enfant de se concentrer sur le chien, à lui faire plein de papouilles et que lui lui fasse plein de l'échouille en retour, l'enfant va pouvoir en tout cas libérer sa parole un peu plus facilement.
C'est beau, c'est assez original, c'est inattendu, je pensais pas que ça existait. C'est vrai, bon, c'est vrai qu'on sait tous que voilà, il y a même des expériences scientifiques qui ont été faites, hein. Si on mesure la tension ou le battement cardiaque d'une personne, on voit que que quand il y a un animal dans la pièce, ça se passe pas de la même manière, hein. C'est intéressant d'avoir pensé à ce détail là
Il intervient sur Dax et Mont-de-Marsan, sur les deux tribunaux, c'était important pour nous, peut-être.
Alors vous parliez aussi d'un escape game avant qu'on se sépare, parce que c'est aussi original aussi. Il faut vivre avec son temps.
On essaie d'être un peu originaux pour essayer de varier les plaisirs. Les collègues aussi, c'est intéressant de sortir un peu de toujours le quotidien et essayer de réfléchir à des canaux de prévention. Donc on peut pas faire beaucoup tout ce qu'on voudrait, puisqu'on n'est pas assez nombreux et qu'on a notre cœur de métier qui est derrière même la prise en charge. Mais on a monté, elles ont créé, les collègues, un escape game sur l'évolution du droit des femmes, des violences et le actuel, le pendant, comment aujourd'hui le traitement des violences conjugales et violences faites aux femmes est fait. Et donc c'est très intéressant de pouvoir faire du droit comparé et en même temps de voir aujourd'hui où on en est même.
C'est un peu un escape game, des fois, la situation de victime.
Malheureusement. Tous les codes.
C'est vrai. Eh bien, mesdames, merci beaucoup d'être venues nous parler de tout ce que vous faites. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissaient pas encore, on voit quand même que c'est large. Il y a beaucoup de choses. Et puis, quand on voit les chiffres, voilà, vous n'avez pas à vous poser la question tous les matins de vous demander à quoi vous servez. On le sait. Mais merci pour ça.
Merci beaucoup à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir à tout le monde.